Il est 21h à Bamako et 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Journée mondiale de lutte contre la drogue, nous ferons un point sur la plateforme de coopération judiciaire pénale au Sahel. Nous évoquerons la force africaine en attente dans notre dossier.
Dès le départ, déjà, il y avait des divergences au niveau des États membres de l'Union africaine. Quelques-uns étaient partis pour constituer cette capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Et quelques autres étaient tout à fait réticents.
L'annonce d'une force de réaction rapide en Afrique semble toujours au point mort. Enfin, nous reviendrons sur ce trafic présumé de nourrissons entre le Niger, le Nigeria et le Bénin. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Ouverture du 23e sommet ordinaire de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, les leaders africains sonnent la mobilisation face au groupe djihadiste qui continue les attaques meurtrières du Nigeria à la Somalie. Félix Yepassi Zembrou.
Très applaudi pendant la plénière pour le retour de l'Égypte au sein de l'Union africaine, le nouveau président Abdel Fattah al-Sissi a vigoureusement invité ses pairs à faire face avec force au fléau que représentent les islamistes armés. Le thème officiel de cette rencontre de deux jours est agriculture et sécurité alimentaire, mais dans les réunions préparatoires, les ministres avaient ouvertement fait part de leur inquiétude face à la poussée des groupes djihadistes sur le continent. Comme à chaque sommet, Malabo sera aussi l'occasion de rencontres bilatérales pour tenter de régler les nombreux litiges sur le continent. Pour les pays africains francophones, Malabo sera également l'occasion de tractations sur le candidat de l'Afrique à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Sénégalais Abdou Diouf achève son mandat de secrétaire général de l'OIF en novembre prochain.
Conflit au Soudan du Sud, le nombre de réfugiés dans les bases des Nations Unies a dépassé la barre des 100 000, un chiffre qui atteste de la détérioration de la situation dans le pays selon l'ONU. Deux soldats djiboutiens de la MISOM ont été tués dans le centre de la Somalie. Deux hommes vêtus d'uniforme de l'armée somalienne ont attaqué leur base à Boulabourde. C'est ce qu'indique la force de l'Union africaine dans le pays, cité par l'agence France-Presse. Il y a eu un échange de tirs et les deux assaillants ont également péri. Les islamistes d'Al-Shabaab ont revendiqué cette attaque.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La Syrie et l'Iran se joignent au combat entre les militants islamistes sunnites qui tentent de s'emparer de l'Irak. Pendant ce temps, on poursuit des efforts occidentaux pour la formation d'un gouvernement rassemblant toutes les forces politiques et communautés du pays. Lionel Gaïma.
Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a annoncé des frappes aériennes de Damas mardi contre les djihadistes. Il s'en est félicité, tout en précisant qu'il ne les avait pas demandées. De son côté, l'Iran, qui appuie le gouvernement de Bagdad, lui fournit des tonnes d'équipements militaires et a déployé des drones de reconnaissance au-dessus de l'Irak. Les États-Unis ont dépêché des conseillers militaires et effectuent également des vols de reconnaissance. La menace djihadiste a créé une convergence d'intérêts entre Damas, Téhéran et Washington. Par ailleurs, le Britannique William Hague s'est rendu à Bagdad. Selon l'AFP, Nouri al-Maliki jugerait nécessaire une solution politique. M. Maliki aurait dit que pour la formation d'un nouveau gouvernement, le Parlement est convoqué pour le 1er juillet. Et John Kerry, le secrétaire d'État américain, est à Paris pour des consultations avec son homologue Laurent Fabius.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a demandé aujourd'hui à la Russie de soutenir son plan de paix pour l'Est ukrainien par des actes concrets. Prenant la parole devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg, M. Poroshenko a accusé Moscou d'agression et déploré l'insuffisance du soutien du président Poutine à son plan de paix. Auparavant, le secrétaire d'État américain John Kerry avait déclaré que la Russie devrait, dans les prochaines heures, appeler les séparatistes ukrainiens à déposer les armes. Hier, l'administration Obama avait menacé la Russie de nouvelles sanctions si rien n'est fait pour désamorcer la crise en Ukraine. La Cour suprême des États-Unis a infligé une défaite au président Barack Obama en déclarant illégale la nomination en 2012 des dirigeants du National Labor Relations Board sans approbation du Sénat. Le président s'est appuyé sur une disposition constitutionnelle lui permettant d'installer des responsables quand le Sénat est en vacances. La Cour suprême a décidé qu'une absence de moins de 10 jours n'autorise pas de telles mesures. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Restez à l'écoute de nos programmes. Jean-Roger Billon à ce microphone. Bonne nuit en compagnie de nos programmes.
Retour à Sahel Plus et nous ouvrons avec la journée internationale de lutte contre la drogue. Au Mali, une marche a été organisée par l'association de jeunes, la JLTDAO. Nous avons joint Mamadou Dembélé, magistrat et directeur des affaires judiciaires au Mali, pour lui demander si la plateforme de coopération judiciaire mise en place en 2010 était efficace. Cette plateforme existe entre le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Mamadou Dembélé.
Ça permet de coordonner facilement l'exécution des demandes d'entraide que nous faisons dans le cadre des procédures pénales. Généralement, nos législations sont assez lourdes et très exigeantes. Par nos interventions, l'intervention des points focaux, nous arrivons à aplanir certaines difficultés sans violer nos législations nationales et nos engagements internationaux.
Alors, par exemple, quand vous me dites des difficultés, quelles sont-elles ?
Ce sont les exigences même des codes de procédure, des lois de procédure. Il y en a qui exigent que ce soit par la voie diplomatique, ce qui alourdit les procédures. Un exemple, dans une affaire qui concernait un Nigérien en République du Mali, par le biais de la plateforme, nous avons pu régler la question en 48 heures. Alors que normalement, si on suivait la voie normale, ben, il fallait attendre près de un mois ou deux mois. On a gagné en efficacité. Oui.
On a énormément parlé du trafic de drogue dans le Sahel, notamment évidemment pendant la crise malienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, et notamment grâce à cette plateforme, que la situation s'est un petit peu arrangée ?
Ce serait trop dire en disant que ça s'est aménisé, mais c'est que toute forme de coopération, d'aide, d'assistance que l'un des pays, les quatre pays demande à l'autre pays, l'exécution s'est faite de façon très diligente.
J'imagine que vous avez des informations sur les trafiquants de drogue. Quelle autre route emprennent-ils maintenant ? Est-ce que c'est plus vers la Mauritanie ? Est-ce que c'est plus vers la Libye ?
En tout cas, dans tous les cas, on a un vaste territoire au nord. Les frontières sont poreuses. Je peux dire quand même que toutes ces frontières leur servent actuellement, puisque la sécurité malienne n'est pas très présente sur ce territoire, sur cette partie du territoire.
Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la situation n'a pas changé ?
Non, sincèrement, ça n'a pas changé.
Mamadou Dembélé, magistrat et directeur des affaires judiciaires du Mali. Le 23e sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Malabo, en Guinée équatoriale. Les chefs d'États africains sont particulièrement préoccupés par le terrorisme et les menaces sécuritaires. Cela va-t-il accélérer la mise en place de la CARIC, la capacité africaine de réponse immédiate aux crises ? Cette force militaire intérimaire avait été pensée pour attendre la création et la mise en place de la fameuse FAA, la force africaine en attente, qui est-elle annoncée depuis plus de 10 ans. Éclairage d'Oswald Padanou, spécialisé dans les questions militaires africaines.
En termes de points, il n'y a pas grand-chose à dire parce que depuis mai 2013, où cette idée de CARIC a été envisagée, jusqu'au sommet de Malabo qui s'était en ce moment, il n'y a pas eu une grande avancée. Déjà, il faut déplorer, disons, l'absence d'anticipation de l'Union africaine parce que justement, en mai 2013, où l'idée de la CARIC, en tout cas sous sa forme actuelle, était envisagée. Disons qu'on était parti sur un sentiment d'incapacité par rapport au fait que les États et les organisations africaines n'avaient pas pu appuyer un État africain, notamment le Mali, dans son effort de reconquête de son intégrité territoriale. Il a fallu que la France intervienne avec l'opération Serval. Donc c'est à déplorer, mais en même temps, on va dire que ce sentiment de culpabilité des acteurs africains a en même temps eu une opportunité. On peut l'interpréter comme un signal positif dans l'appropriation, africaine des crises et des solutions à ces crises-là. Donc, au départ, il y avait déjà cette ambivalence dans l'interprétation qu'on pouvait faire de la CARIC. Et donc, dès le départ, déjà, il y avait des divergences au niveau des États membres de l'Union africaine. Quelques-uns étaient, parti pour constituer cette capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Et quelques autres étaient tout à fait réticents, comme le Nigeria, et ont privilégié, disons, une approche régionale. Donc les discussions ont avancé pendant un an sans qu'on ne puisse faire une synthèse concrète. Mais je pense que le sommet de Malabo, est en train d'aller vers un compromis entre les deux solutions qui sont envisagées, c'est-à-dire une capacité africaine de réponse aux crises qui sera, à un échelon unique au niveau continental. Et puis la force africaine en attente avec les brigades régionales qui sont envisagées au niveau de chaque communauté économique régionale.
Le chercheur Oswald Padanou, spécialisé dans les questions militaires africaines. Pour cette fin d'émission, nous revenons sur cette affaire de trafic présumé de nourrissons entre le Nigeria et le Niger. Une affaire révélée par le journal nigérien L'Événement. Timothée Donangmaï a joint son directeur de publication, Moussa Aksar.
La trentaine de présumés trafiquants de bébés a été déférée au tribunal de grande instance de Niamey, où ils sont actuellement en train d'être auditionnés par le juge après qu'ils aient été gardés pendant au moins 48 heures à la police judiciaire pour le besoin de l'enquête.
Votre enquête vous a mené au Nigeria notamment, où l'on parle de véritables usines à bébés. Qu'en est-il exactement?
Bon, c'est suite à notre travail d'investigation au mois de janvier, il y a 7 mois de cela, nous avons appris qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à procréer et qui partent au Nigeria voisin acheter des bébés et venir ici leur faire de certificats de nationalité, des actes de naissance, avec la complicité de certains fonctionnaires au sein de l'administration. Donc, à partir de cet instant, nous avons cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe et nous avons compris qu'il y a toute une toile qui s'étend du Niger au Nigeria, le Bénin et même certaines personnalités au Burkina Faso et voisins. Donc c'est plusieurs personnes qui sont impliquées, dont des personnalités de premier rang. Vous avez l'épouse de l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'épouse du ministre Abdoulaye qui est ministre d'État en fonction actuellement, des époux, des anciens DG et des ministres, et même un policier en fonction qui sont impliqués dans ce trafic-là, plus les faussaires, il y a des faussaires, il y a aussi ceux qui sont impliqués, les fonctionnaires, qui ont pu faire à ce bébé-là, une fois arrivé au Niger, des actes de naissance, ils ont fait du faux.
On parle de plusieurs millions de francs CFA dans ces transactions, qu'en est-il?
Vous avez des accompagnatrices et des intermédiaires. C'est vraiment un circuit bien organisé. Et un bébé, ça dépend. Si vous avez besoin d'un sexe féminin ou masculin, le sexe masculin coûte plus cher que le sexe féminin. Et si vous avez besoin d'une paire de jumeaux, là encore, il vous faut débourser plus d'argent. Donc, c'est en fonction de votre besoin. Vous faites la commande et vous partez récupérer ces bébés dans des usines au Nigeria où on les fabrique, où également la police a eu de ce pays-là a démantelé ce vaste réseau-là.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement. Au Niger, bien entendu, cette affaire suscite beaucoup de réactions. Écoutons Mariama Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales.
Les concernés ont été interpellés au niveau de la police judiciaire. Ils ont été écoutés. Maintenant, je crois que l'affaire a même atterri entre les mains de la justice. Mais ce qui est sûr, l'État mettra des moyens pour pouvoir bien investiguer. Parce que depuis tout ce temps-là, on ne marchait que sur la base de rumeurs. Et moi, à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que réellement, ces enfants-là sont des enfants qui ont été achetés. Seul le test ADN peut nous dire si ce sont des enfants achetés ou bien des enfants qui ont été mis au monde par leurs propres parents.
Bien évidemment, les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Quelle est votre réaction par rapport au rôle de la justice dans cette affaire?
Bon, question. La justice doit vraiment jouer un rôle important à ce niveau parce que nous voulons qu'il y ait vraiment une certaine vérité autour de cette affaire-là. Et je pense que la vérité verra le jour d'ici peu. Puisque à l'allure où vont les choses, la justice ira jusqu'au bout. Les enquêtes sont en train d'être menées. S'il y a d'autres personnes, elles n'ont qu'à se faire dénoncer. Moi, je crois que ce n'est pas une honte.
Des femmes de haute personnalité figurent parmi les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire. Quelle est votre réaction à cela?
Je suis frustrée. Je suis choquée et en même temps frustrée. Parce que je n'avais jamais pensé que ces femmes-là allaient être sur la liste noire, si on peut le dire entre guillemets, parce que là, il s'agit d'une liste noire. Aujourd'hui, on ne parle que du Niger. Nous, ça nous met mal à l'aise au plan international. Parce qu'aujourd'hui, tout bébé qui disparaît ailleurs, on peut dire que ce bébé-là a dû être vendu au Niger. Mais ça ne m'étonne pas. À partir du moment où, tout récemment, il n'y a même pas trois mois de cela, un bébé a été volé dans une maternité de référence de la capitale. Imaginez, on peut dire que tout est possible.
Mariama Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Gaïma. À la console, Glenn Van Calio. Au micro, Claire Morin-Gibour. Nous nous quittons en musique avec Kouyaté et Nerman. Kouyaté de Landciné, Kouyaté que l'on surnomme le maître malien des balafons. Et David Nerman qui joue du vibraphone électronique. La paire, donc Kouyaté et Nerman, sera en concert le 19 juillet dans le cadre du festival Détour du Monde à Chanac, en France. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter. VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.